Alors bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Je voudrais d'abord quand même aussi signaler que notre frère et ami T.L. Osborne sera à Paris à partir du 21 août au Palais des Congrès de Montreuil, très précisément, pour quelques jours d'enseignement. Pendant 6 jours, je crois, il enseigne là. Ce sera du séminaire. Et ensuite, pendant 4 jours, il y aura des grandes réunions tous les soirs en plein air, place de la Bastille. Le maire de Paris a accordé ça. Place de la Bastille, place de la République. Tout le monde, là, alors là, il y aura des grandes, je ne sais pas comment ils vont faire, comment ils vont s'organiser. Mais ils ont réussi à avoir l'autorisation pour tous les soirs avec T.L. Osborne en plein air. C'est une première à Paris, jamais ça s'est vu. Donc, on prie pour ça. On se joint à ceux qui organisent tout ça dans la prière. Je vais aussi prendre d'autres contacts avec eux pour voir ce qu'on peut faire, si on peut aider aussi, on verra. Voilà, que Dieu bénisse notre frère qui renouvelle ses forces. Il a quand même 83 ans maintenant, mais partout où il va, encore j'ai reçu des nouvelles il n'y a pas longtemps, des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires qui se produisent. Donc voilà, ce qu'il nous faut ici en France, c'est la démonstration de la puissance de Dieu, que la parole de Dieu soit accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles, mais dans la dignité. C'est ce que je disais à un des organisateurs que j'ai eu au téléphone l'autre jour, hier ou avant-hier, je crois. Et je lui disais, ce qu'il y a de bien avec T.L. Osborne, c'est qu'on est sûr que ça va se passer dans la dignité. Il va y avoir des gens qui se roulent par terre, qui hurlent comme des veaux, et ça c'est horrible, horrible, charnel. Voilà, que Dieu soit béni, on est content, hein? Moi, je suis très, très content aussi. Malheureusement, je ne pourrai pas assister à toutes les réunions d'évangélisation, puisque je parle, je crois, le 27, je ne sais plus quand, pour la Côte d'Ivoire, pour une série d'une semaine avec Marc. On va faire une semaine là-bas d'enseignement. Et puis, voilà, donc je ne sais pas, je ne pourrai pas être là pour les derniers jours, mais j'espère que vous irez, et puis surtout, ameutez vos amis, vos connaissances, vos parents, tous ceux que vous connaissez. Faites une liste, hein. Il n'y a pas que dans le multiniveau. Faites une liste et puis envoyez des invitations, écrivez, envoyez des mails, faites du tapage. C'est une occasion extraordinaire pour nous d'être visités dans ce pays de pauvres, France. Ça sera bon, ça sera bon. Voilà, on lit Jean chapitre 8, verset 32. Je le répéterai de temps en temps lors des réunions que nous faisons et comme ça aussi. Ceux qui viennent sur Internet pourront le découvrir. Jean 8, 32. C'est Jésus qui parle. On va lire déjà le verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Je vous assure. Donc, connaître la parole. Croire en lui, demeurer la parole, et à partir de là, on connaît la vérité, et cela nous rend libres. Frères et sœurs, sur la terre, Jésus a fait, et fait encore, beaucoup de miracles. Je crois que le plus grand miracle qu'il a fait, et qu'il refait jour après jour, c'est celui, d'ailleurs qu'il nous ordonne de faire nous-mêmes, c'est celui qui se trouve dans Ésaïe 58, verset 6, qui dit « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés. » Voilà. Comme je vous dis, Jésus a fait et fait encore beaucoup de miracles. J'étais témoin de beaucoup, beaucoup de guérisons, de délivrances, des gens délivrés de démons. J'ai vu comment Jésus calme des tempêtes, mais vraiment, pas seulement au spirituel, je veux dire dans l'imaginaire, dans le virtuel, mais réellement des tempêtes, des morts ressuscités. J'ai vu des choses extraordinaires, mais il y a un miracle, aucun miracle qui ne peut égaler celui qui libère les gens de l'ignorance. Il n'y a aucun miracle qui puisse égaler celui qui libère les gens des liens de la superstition, de la condamnation. Quand on fait ce miracle au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est, je crois, plus grand encore que de ressusciter un mort. Parce que une personne perdue que nous délions, une personne perdue que nous détachons, que nous renvoyons libre de la condamnation, C'est une personne sauvée de la mort éternelle, une personne que vous ressuscitez au nom de Jésus, un paralytique que vous faites marcher, il mourra, le ressuscité remourra de nouveau. Lazare est remort. Mais quand vous arrivez à faire passer une personne des ténèbres à la lumière, que vous la sortez des ténèbres pour la faire entrer dans la lumière, que vous dénouez une personne des liens, de la superstition, des fausses croyances et de tout ça pour l'emmener dans la lumière de Jésus, ça c'est le plus grand miracle, parce que ça dure l'éternité. L'apôtre Paul disait, ô mort, écoutez bien, au Burkina, ils étaient choqués parce qu'un jour, j'ai parlé à un démon. J'ai dit au démon Mammon, vous savez que Mammon, c'est l'esprit qui dirige les choses de l'argent. J'ai commandé à Mammon de venir dans la poche d'un pasteur pour qu'il puisse payer le toit de son église. Ils étaient un peu choqués que je m'adresse aux démons. Mais Jésus a dit, chassez les démons. Alors on chasse les démons, pour les chasser, il faut bien s'adresser à eux. Et j'ai dit après à ce pasteur, vous savez, si vous chassez Mammon, vous ne risquez pas de pouvoir payer votre toit. Donc je pense que c'est mieux d'en être maître, de commander à ce démon de venir afin que vous puissiez vous en servir de l'argent. D'accord ? Donc ils étaient un peu choqués, mais ils ont compris quand même qu'un chrétien, il n'est pas simplement là pour prier, mais pour commander, pour ordonner aux esprits, aux puissances et toutes ces choses-là. Et l'apôtre Paul, il faisait plus fort, il parlait à la mort. Ah bon, mais bien sûr. Il disait, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Vous voyez qu'il parle à la mort. Et en plus, il la nargue. L'aiguillon de la mort, c'est le péché que révèle la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression de la loi, il n'y a pas de péché. Et c'est une immense tragédie, cette histoire d'aiguillon de la mort. Une immense tragédie. Parce que tant qu'on ne connaît pas ce que Jésus a véritablement fait, on est encore dans les liens de la servitude, on est encore sous cette condamnation de la loi. Et ce matin, je ne me tiens pas devant vous pour vous distraire, mais je me tiens devant vous, non pas pour vous raconter des fables, mais pour vous présenter les Saintes Écritures, pour vous dire la vérité qui vous rendra libre. Parce que la vérité rend libre. Mais si vous êtes là, réunis, comme parce que c'est dimanche, et puis que voilà, c'est un moment à passer, dans un moment il va fermer son clapet, on va pas rentrer chez nous prendre l'apéro, c'est dommage, vous n'allez pas changer. L'autre jour, je vous disais, on ne change pas. On mûrit. Vous restez le même, mais vous mûrissez. Frères et sœurs, l'homme et la femme, chrétien ou pas chrétien, c'est des humains. Et on est naturellement, en tant qu'humain, une âme charnelle. Nous sommes un esprit dans un corps et nous sommes charnels. Il nous est plus facile de faire le mal que le bien. Celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Alors, voyons ce que Dieu veut nous dire ce matin avec tout ça. Qu'est-ce que Dieu peut dire ce matin avec tout ça? Frères et sœurs, nous avons une destinée. Notre esprit éternel est venu sur cette terre, dans un corps, et il est venu pour faire un voyage. Pour faire un voyage d'une durée déterminée par Dieu. Mais c'est une durée déterminée par Dieu, mais que nous ignorons, nous ne savons pas, en tant que créature, combien de temps ça va durer. Donc pour nous, la durée du voyage terrestre est indéterminée. Ça peut se terminer tout à l'heure, pour vous ou pour moi. On n'en sait rien. Alors, notre esprit voyage tantôt dans ce corps, dangereusement, tantôt en sécurité, tantôt avec tristesse, tantôt avec joie. Mais il nous faut savoir, et ça c'est ce qui rend libre, c'est que chacun des moments dans lesquels notre esprit voyage à l'intérieur de ce corps, eh bien, le chemin est marqué par la volonté de Dieu. Rien n'échappe à son regard. La volonté de Dieu. Nous sommes venus ici-bas pour non pas seulement prier, ô Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, mais nous sommes venus ici-bas pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme nous la faisions au ciel en tant qu'esprit, mais cette fois dans un corps de chair. Notre voyage terrestre commence au départ, traverse au début ce que nous appelons l'enfance, et là, nous avons toutes sortes d'activités insouciantes, vous croyez qu'ils se font beaucoup de soucis, nos gamins, regardez, là, pas trop, enfin bon, à part, le dernier Game Boy qui vient de sortir, je sais pas. Nous faisons aussi un apprentissage très rapide quand on traverse l'enfance. On apprend énormément de choses. Et pendant ce temps de voyage de l'enfance, il y a des bobos plus ou moins graves, il y a des sentiments froissés, il y a des excitations vives, il y a toutes sortes de choses. Ensuite vient l'adolescence. L'adolescence avec son exubérance, avec ses sympathies, avec ses antipathies, avec ses craintes, avec ses espoirs, avec ses intensités de toutes sortes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la vie d'adulte. La vie d'adulte avec ses responsabilités, ses compétitions, ses ambitions, avec pour certains l'éducation de leurs enfants. Et puis ensuite, les petits-enfants qui arrivent avec l'âge plus mûr. Dans l'âge plus mûr, alors c'est... On atteint nos réalisations, on touche nos aboutissements, les buts sont atteints, et alors vient le temps de la détente, qu'on appelle aussi la retraite. Et pendant tout ce voyage, nous avons des tas d'occasions d'apprendre, de progresser et de se développer en vue d'un but final déterminé par Dieu que nous devons connaître. Alors, nous voyons des gens qui se contentent de voyager. Ils voyagent, c'est tout, ils voyagent. Ils n'ont aucun but, aucune direction, aucun objectif, aucune destination. Ils sont là, chaque jour, boum, 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 ils font leur truc, leur machin. Ils n'ont pas de GPS, hein. Ils n'ont pas de carte routière. Ils suivent le chemin, comme ça va, comme ça pousse. Hein. Ils ramassent ceci, ils ramassent cela, ce qui leur plaît le long du chemin, ce qui flatte leur la vanité, ce qui satisfait, n'est-ce pas, leur faim, ce qui étanche leur soif, ça peut être une religion. Ça peut être une religion. Ils ramassent ça, voilà, hein, ce qui plaît à leurs yeux. Puis ils arrivent à la fin de leur vie, ils ont voyagé. Mais cependant, ils sont pas plus loin, ils sont pas plus près de leur destination que quand ils ont commencé leur voyage. Rien. Et puis pour beaucoup, ils ont même complètement dévié du chemin, ils ont perdu leur chemin, ils ne savent plus où ils en sont. Et puis vous en avez d'autres, qui sont chrétiens, ou non, qui préparent leur itinéraire, qui prennent des décisions sages, qui décident de se discipliner, qui prennent des décisions correctes, et qui atteignent, dans une grande mesure, leurs buts, leurs objectifs. Je dis bien des chrétiens ou non. Eh bien, je vous dis, frères et sœurs, qu'en agissant ainsi, ces chrétiens ou ces non-chrétiens, ils coopèrent avec Dieu. Ils coopèrent avec Dieu, avec leur Créateur. Parce que, voyez-vous, nous serons tous jugés selon nos œuvres. Alors, pour nous qui sommes nés de nouveau, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, c'est ce que Jésus dit. Ceux qui sont prédestinés au salut n'auront pas tous la même gloire, nous dit aussi la Bible. On va voir 5 sortes de personnes. Il y aura premièrement ceux qui, au travers des 7 âges de l'Église, c'est-à-dire à partir du moment où l'Église est devenue ce qu'on appelle l'Église des nations, à partir de là, au travers de ces 7 périodes bien marquées dans l'Apocalypse, eh bien, ceux qui premièrement auront été vainqueurs ont une destinée tout à fait spéciale. Au travers des 7 âges, il y a chaque fois des vainqueurs et des perdants. Vous trouvez ça dans Apocalypse 2.7, 2.11, 2.17, 2.26, 3.5, 3.12, 3.21. Je pense quand même que ça vaut la peine de chercher un peu ce que ça veut dire. C'est quoi ces vainqueurs? Il y a des gens qui, dans l'Église, sont des vainqueurs et dans l'Église, sont des perdants. Et les vainqueurs n'auront pas la même récompense que les perdants. Maintenant, les deux auront le salut, mais dans un rang différent. Certains diront, « Oh, ben moi, pourvu que je sois sauvé. » Soyez sérieux avec ce qui est le plus sérieux dans toute l'histoire. C'est sérieux. Auront-ils ces gens qui ont été vainqueurs fait moins de péchés que les autres? Je n'en sais rien. Je sais qu'une chose, c'est que ceux qui croient au Seigneur Jésus et à son œuvre de rachat sur la croix ont déjà été jugés. Jean 3, 18. Nous avons été jugés quand Jésus était jugé et condamné à notre place. Donc, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait n'entre pas en ligne de compte si nous croyons au Seigneur Jésus. Donc, ceux qui seront les vainqueurs au travers des sept âges de l'Église, dans l'histoire de l'Église, ces sept périodes bien distinctes, ces gens qui auront été vainqueurs ne seront pas jugés quant au bien et au mal qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. Vous allez me dire, ah bon, qu'ils n'ont pas fait, bien sûr. Ils ne vont pas être jugés quant au bien qu'ils n'ont pas fait, par exemple. Mais ils vont être jugés, nous allons être jugés, au sujet des matériaux que nous aurons utilisés pour construire notre vie, pour faire notre voyage terrestre. Rappelez-vous, il y en a qui construisent avec du chaume, avec du bois, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses. Qu'est-ce que c'est ces matériaux ? Frères et sœurs, pendant votre temps, avez-vous cru le message pour votre âge ? L'avez-vous vécu ? L'avez-vous intégré et l'avez-vous transformé en acte ? Ces vainqueurs, ces gens dans l'Église, ces gens dans l'Église et ces vainqueurs, les perdants et les gagnants, ils vont être jugés au sujet des matériaux. Auront-ils fait ce qu'il fallait faire avec la révélation donnée à leur époque, ou bien ont-ils négligé ça? Par exemple, au temps de l'apôtre Paul, dans cette période de l'histoire de l'Église, est-ce que les gens ont fait ce que Paul disait, ce que Paul enseignait? Ceux qui auront fait ce que Paul disait et enseignait sont les vainqueurs. Les autres sont les croyants qui seront sauvés, mais comme au travers du feu. Et puis est venu l'âge d'Irénée, la même chose. La révélation était différente, des choses ont été perdues. Mais Dieu ne demande pas que nous fassions des choses que nous ne connaissons pas. Ce qu'il a révélé du temps d'Irénée, voilà, c'était ça qu'il fallait faire, c'était ça qu'il fallait vivre. Quels matériaux avez-vous employés? Par exemple, quels matériaux ont employé ceux qui ont vécu du temps de Martin, ou de Colomba, ou de Martin Luther, le réformateur? Ou de Wesley, et de nos jours, qui est vainqueur? Eh bien, ceux qui écoutent le message d'Apocalypse 3, 14 à 22. Apocalypse 3, 14 à 22, et je vais vous le lire. Apocalypse 3, 14 à 22. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Il parle à l'Église, qui contient des perdants et des gagnants. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi, sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est un message qui est donné à un ange, à un envoyé, et au premier temps, c'était Paul, ensuite on a eu Irénée, ensuite on a eu Martin, ce sont des gens qui ont marqué leur époque, qui ont influencé un âge de l'Église, et à la fin, nous savons tous très bien que l'envoyé de Dieu pour notre âge, pour notre temps, c'est William Marion Branham. Pas le branhamisme, non, mon Dieu, que Dieu nous protège, mais l'homme. Le message du frère Branham est résumé dans ce texte que je viens de vous lire. C'est le résumé, ça. Puis, tout ce qu'il a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit est à étudier et à vivre. Maintenant, je dis bien tout ce qui a été dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. À vous de trier, à vous de chercher, et vous trouverez. Il faut chercher si vous voulez trouver. Toutes ces paroles ne sont pas « Amen » et « Ainsi dit le Seigneur », même s'il dit « Ainsi dit le Seigneur ». À celui qui vaincra, dit Jésus, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Maintenant, ceux qui n'auront pas vaincu, ceux qui n'auront pas construit avec les bons matériaux donnés à leur époque, ceux-là seront sauvés, oui, mais ne seront pas l'épouse de Christ. Puis troisièmement, donc il y a ceux qui sont l'épouse de Christ, il y a ceux qui sont les perdants dans l'Église, mais qui sont sauvés comme au travers du feu. Et puis il y a tous ceux qui auront marché n'importe comment, tout en croyant, des gens qui ne sont même pas dans l'Église, qui ne sont même pas nés de nouveau, mais qui fréquentent des églises, qui se disent chrétiens, toutes ces choses-là. Ceux qui passent là un peu n'importe comment, ils passeront un temps dans le mauvais côté du séjour des morts pour y être châtiés, pour y prendre des coups. Je dis que même dans l'Église, il y a des gens qui passeront comme ça, dans le mauvais côté, pour prendre des coups. Pour prendre des coups. Ils seront sauvés, mais ils prendront des coups. On va lire Luc 12, 47, 48. Le serviteur, vous voyez, serviteur de Dieu, qui aura connu la volonté de son maître, donc de Dieu, qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté, donc révélé, sera battu d'un grand nombre de coups. Oh, mais Saint-Michel, oui, c'est écrit, vous ne pouvez rien faire avec que de le croire. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu, donc qui n'aura pas connu Jésus, qui aura commis des actes dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Vous voyez que c'est pas pareil pour tout le monde. On demandera beaucoup à qui on a donné beaucoup et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Quatrièmement, il y aura le jugement au trône blanc, d'après Apocalypse 20, 11, 15. Tout le monde ne sera pas perdu. Tous ceux qui passeront devant le trône blanc ne seront pas perdus. Ils seront jugés selon leurs œuvres. Tous les gens de tous les âges, de tous les temps, seront jugés selon leurs œuvres. Et ensuite, après avoir été jugés quant à leurs œuvres, eh bien, on regardera si leur nom est inscrit dans le livre de vie. S'ils n'y sont pas, dégagés, circulés, il n'y a rien à voir. Mais d'autres pourront être sauvés. Sinon, pourquoi un jugement? Pourquoi dire qu'il y en a qui sont condamnés? Ça veut dire qu'il y en a qui ne le seront pas. Cinquièmement, il y aura tous ceux qui auront entendu l'évangile prêché dans le séjour des morts, selon 1 Pierre 4, 6, qui dit que l'évangile a aussi été prêché dans le séjour des morts, afin que, après avoir été jugé quant à la chair, il puisse être rendu vivant quant à l'esprit. Donc en ce moment même, depuis que Jésus est allé dans le séjour des morts, continuellement il y a des prédications qui sont faites dans le séjour des morts. Quand vous mourrez, c'est là que vous irez premièrement pour prêcher pendant un temps, donc il faudrait que vous vous exerciez à prêcher déjà maintenant, pour aller prêcher aux morts, pour que certains de ces captifs puissent être emmenés dans les hauteurs, comme Jésus a fait lui-même. Et puis, ces gens qui accepteront l'évangile là en bas, il leur manquera le baptême que nous faisons à leur place en tant que leur substitut. Cet après-midi, Natalia on va baptiser je ne sais pas combien de milliers de personnes de son pays, de Pologne, et on va aussi faire le baptême de Raymond DeVos et d'autres qui sont morts dernièrement. Voyez, ceux-là n'ont pas vraiment entendu l'évangile correctement, n'ont pas entendu vraiment avec la puissance démontrée l'évangile de Jésus-Christ, et nous avons notre part pour leur rachat. Ça, c'est dans notre temps, orage. C'était pas possible avant. Pourquoi? Parce que c'était tous une bande de trinitaires. Il fallait d'abord que la vérité soit rétablie comme elle l'était à Jérusalem, où il n'était pas trinitaire du temps du premier ange. Pierre, la véritable église. Ensuite Paul, ça a continué. Et puis après c'était fini, ils ont oublié tout ça. Et William Branham a rétabli l'enseignement au sujet de la Trinité, de l'unité de Dieu. Et maintenant, nous qui sommes au rage, nous sommes au bénéfice de toutes ces paroles qui n'ont jamais brillé dans les nations, mais qui ont brillé à Jérusalem, selon le songe de Jackson, pour ceux qui sont branhamistes et qui connaissent, ou qui ont lu les messages de Branham. Donc maintenant, nous pouvons, ce baptême pour les morts a été rétabli. Chacun ressuscitera, mais chacun en son rang. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 23. Tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Il y a l'immortalité et il y a la vie éternelle. Cela constitue les seuls buts de la vie. Tous les autres intérêts, toutes les autres activités, ce sont des annexes. C'est vrai que ces annexes ont leur importance. Pour une personne née de nouveau, ces annexes, elles constituent l'œuvre et la gloire de Dieu au travers de nous, au travers de notre personne, au travers de notre église locale aussi. Ces œuvres qui n'entreront pas en ligne de compte pour le jugement des saints, des gens nés de nouveau, sont quand même ce à quoi nous devons employer ces œuvres, ces annexes. Parce qu'elles sont la raison principale pour laquelle nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici pour faire quelque chose. On n'est pas venus ici pour marcher sur ce chemin et pour voyager dans cette vie sans rien, sans but, sans œuvre, sans rien à accomplir. Nous avons tous quelque chose à faire. Nous sommes tous venus ici-bas pour une raison, pour une œuvre particulière qu'on doit accomplir selon les révélations données pour notre temps. Et nous devons le faire, ce que nous avons à faire, de la meilleure façon que nous connaissons. Et la meilleure façon d'agir n'est pas seulement dictée par la loi, c'est-à-dire par la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas faire le mal, il faut faire le bien. Non. La meilleure façon d'agir, elle est dictée surtout par le savoir-vivre spirituel et culturel. On ne peut pas faire le bien en Afrique comme on fait le bien ici en France. Certaines choses qu'on nomme bien chez eux, c'est mal, parce qu'il y a une culture. Donc il nous faut du savoir-vivre. Et même entre nous, qui avons été éduqués chacun d'une manière un peu différente, il y a du savoir-vivre. Et même si nous avons été éduqués dans la même famille, il y a du savoir-vivre. Il n'y a pas que le bien et le mal. Faire le bien sans savoir-vivre, ça peut être un poison pour les autres. Dire la vérité sans savoir-vivre peut briser des vies, peut humilier des gens. Même aimer sans savoir-vivre, ça peut être nuisible. Donc vous voyez notre responsabilité. Vous voyez, l'immortalité, ça nous a été donné comme un cadeau. Mais quelle sorte de vie éternelle aurez-vous? Vous voyez la différence entre l'immortalité et la vie éternelle? L'immortalité nous a été donnée comme un cadeau. Dieu nous a créés pour vivre dans cet état mortel, maintenant, à l'heure actuelle, et nous a dotés de la capacité de perpétuer le genre humain. Il nous a donné les moyens de soumettre la terre, il nous a donné le moyen de nous perfectionner, il nous a donné le moyen de devenir comme lui, omniprésent, omniscient. Malheureusement, le peuple de Dieu a très très souvent, la plupart du temps, rejeté le savoir-vivre selon Dieu. Alors les Écritures montrent clairement le but élevé de notre voyage sur terre. Nous avons été créés à l'image du Fils. Jean 4, 17 nous dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Alors, quelle est notre destinée? Quelle est ta destinée? Comme lui, est-ce que tu as le goût de l'excellence? Jésus n'a pas du tout le goût de la médiocrité. As-tu comme lui le goût du travail bien fait? As-tu comme lui le goût de l'ordre? As-tu comme lui le goût du bon emploi du temps? As-tu comme lui le goût de la gentillesse? Bien sûr que vous l'avez, puisque le Saint-Esprit est en vous. Il veut se manifester par vous. Frères et sœurs, Jésus n'avait pas du tout le besoin d'essayer de se justifier, de se sentir juste en menant une vie méchante, en disant « Oui, mais quand même, c'était normal que je dise, oui, mais quand même, c'est normal que je fasse, mais rien. » Non. Méchant, ça veut dire inutile. Inutile pour Dieu, inutile pour l'œuvre de Dieu. Il ne vivait pas, Jésus, que pour le moment présent, c'est-à-dire pour manger, pour boire, pour se réjouir. Il vivait tous les moments présents avec à la pensée le grand but de sa vie, qui n'est pas le même que votre vie. Le grand but de sa vie, c'était autre chose que vous. Mais quel est le grand but de votre vie? Notre esprit, il est enfermé momentanément dans de la viande, dans de la chair, mortelle. C'est ce qui a créé l'âme. Mais cette âme, elle a reçu la vie éternelle, c'est-à-dire le salut. Maintenant, cette âme va pouvoir être sauvée, même notre corps sera racheté. Mais maintenant, on a à travailler. Ce voyage sert à travailler notre salut. Comment ? Eh bien, en construisant avec de l'or, avec de l'argent et avec des pierres précieuses. Le reste, ne l'utilisez même pas, ne perdez pas votre temps avec ça. C'est-à-dire, l'or, l'argent, les pierres précieuses, c'est ce que Dieu nous a donné dans notre âge. J'entendais l'histoire d'un songe, un frère qui était emmené jusqu'au paradis et qui a rencontré un autre frère. Et il a voulu lui parler, et ce frère lui dit, non, j'ai pas le temps maintenant, excuse-moi. Et puis, il a disparu. Et il a eu un autre songe, il a revu ce frère qui lui dit, excuse-moi, mais vraiment, j'ai pas le temps. Et trois fois comme ça. Et la quatrième fois, il dit, mais pourquoi tu as pas le temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es au paradis et on dirait que tu as un boulot pas possible. Il dit, mais oui. Il dit, parce que nous sommes la dernière génération. Autrefois, les gens avaient le temps. Mais maintenant, il n'y a plus le temps. Il faut se dépêcher. Donc, dans le ciel, il y a une urgence. Est-ce qu'ici, il y a une urgence à construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou est-ce que vous pensez que vous avez encore le temps de bricoler avec du chaume, avec du médiocre, avec des petites idées, avec des petites pensées, avec des choses, des sentiments pas très élevés? Qu'est-ce que c'est l'or, l'argent, les pierres précieuses? C'est ce que Dieu nous a donné dans notre âge, dans notre temps. L'or, au 21e siècle, c'est pas l'or du 16e siècle. L'or représente la parole de Dieu. L'or, c'est la parole éprouvée de Dieu. Eh bien, l'or du 21e siècle n'est pas l'or exigé dans le 16e siècle. Au 21e siècle, nous avons à travailler d'une certaine manière avec ce matériau, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est beaucoup plus révélée aujourd'hui qu'elle ne l'était, beaucoup plus épurée aujourd'hui qu'elle ne l'était au 16e siècle. C'est-à-dire, nous avons à travailler avec Apocalypse 3, 14, 22 que je viens de vous lire. Et nous avons à travailler avec le message du messager du 7e âge, c'est-à-dire le message du prophète. Sans oublier le savoir-vivre du 21e siècle, parce que le prophète a vécu au 20e siècle, et je suis désolé de le dire, nous ne sommes plus dans le siècle de William Branham. Nous ne sommes plus dans le temps de Laodicée. C'est fini, Laodicée. Nous n'avons plus à vivre ce que vivait William Branham entre 1950 et 1965. Le savoir-vivre aujourd'hui, c'est autre chose. Par exemple, on ne donnera jamais la vie en condamnant les femmes qui se coupent les cheveux. C'est juste pour donner un exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses. Le savoir-vivre de William Branham, c'était un savoir-vivre de paysan. Et il était choqué par la montée du féminisme et il a agi d'une façon terrible en disant des choses terribles. Le savoir-vivre, c'est d'être gentil aujourd'hui, c'est d'être attrayant, afin d'en sauver le plus grand nombre. C'est de se faire faible avec les faibles. On n'a plus à être grec avec les grecs, et juif avec les juifs, français avec les français, et machin patin couffin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nation. Maintenant, c'est la mondialisation. Les Africains portent des jeans, écoutent le rock and roll, le hard, tout le rap, tout ce que vous voulez. Ils savent les mêmes choses que vous, ils voient les mêmes films que vous. Dans le monde entier, il y a des questions de culture, c'est certain. Mais maintenant, c'est la mondialisation. Alors, c'est pourquoi Paul a dit, on doit être grec avec les grecs, juif avec les juifs, et faible avec les faibles. C'est autre chose. C'est autre chose. Aujourd'hui, le monde s'est rempli de gens qui ont l'air forts, mais qui sont faibles. Avec quelques personnes, je suis allé voir un film qui s'appelle Poséidon. C'est un gros bateau qui coule. Alors, vous les voyez, ils sont tous là, remplis d'assurance. Et vas-y, commande une bouteille de vin à $5,000. Et puis, et tout. Ils sont crâneurs, ils se regardent de haut, ils méprisent et tout. Et puis, le bateau coule. Une bande de poules mouillées. Mais oui. On a l'air fort, rempli d'assurance, rempli de certitude. Les gens, vous les voyez dans la rue, c'est extraordinaire. Et d'un coup, paf, quelque chose arrive. Ah, Michel, on a vraiment prié pour moi. Oh, mais s'il y avait un Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? Vous voyez? Faible. Faible aussi pour beaucoup de choses. Ce monde est plein de faibles aujourd'hui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez faibles avec les faibles, pour en attirer le plus grand nombre. Mais tout en paraissant faibles, nous avons le devoir d'être réellement forts. Ça doit être juste une apparence. Parce que les gens regardent à l'apparence. Nous devons leur ressembler pour les attirer. Vous savez, quand on voit des gens avec des femmes avec des jupes longues et des cheveux qui traînent jusque par terre, et les gens, ça les fait sourire. Et ils disent ça, ils ont une bondieuse rire. On ne doit pas être comme ça. Le péché ne consiste pas dans la longueur des cheveux et de ces choses-là. Savoir vivre en famille, en famille devant le monde, en famille au milieu des frères et sœurs. Pourquoi je dis en famille? Parce que la famille, c'est la volonté de Dieu. Vous avez qu'à... C'est la volonté de Dieu, on le trouve dans les Écritures, mais vous avez qu'à ouvrir les yeux. C'est ce qui aujourd'hui est le plus systématiquement sapé par l'ennemi, ridiculisé, profané, la famille. Alors, c'est là que nous devons savoir vivre. N'irritez pas vos enfants. Ne les fatiguez pas. Comment la Bible dit? Elle dit, il y a un mot extraordinaire que la Bible dit au sujet de n'exaspérez pas. Merci Marie-Claire. N'exaspérez pas vos enfants. Soyez gentils. Soyez gentils. Ils sont pas parfaits. Et alors, est-ce que vous l'êtes? Bon, Dieu ne nous exaspère pas. Alors, de grâce, soyez comme Dieu. Tel il est, tel, soyez tel dans ce monde. N'exaspérez pas vos gamins. Les houspillant sans arrêt pour ci, pour ça. Soyez gentils. En famille, mais en famille devant les amis, en famille devant les ennemis, en famille dans le milieu chrétien. Mais soyez gentils. Soyez la lumière. Soyez leur lumière. Inspirez-les. Soyons des pierres vivantes. Vous savez, si nous sommes des pierres vivantes, nous devons être des pierres qui reçoivent la lumière pour du savoir-vivre, pour refléter cette lumière sur l'extérieur, afin de les inspirer. Et frères et sœurs, la lumière ne peut pas être reflétée par le bois, ou par le chaume, par la paille, par des matériaux qui n'ont pas de grande noblesse. La paille a une très grande importance. Si vous n'avez pas la paille, vous n'avez pas le grain au bout. Donc, ça a eu de l'importance dans votre vie, la paille. Mais maintenant, arrêtez avec ces petits machins. Élevez-vous. Je dis, vous vivez dans un château, mais vous vivez comme si vous étiez dans un HLM. La plupart d'entre vous, vous vivez comme si vous étiez dans un HLM. Vous n'avez pas conscience que vous êtes dans un château. Avec Stéphane, on est allé en Suisse et on a été voir des appartements. On est allé voir. On dit, oui, mais c'est des gens riches. Mais ils n'ont pas toujours été. Mais c'est splendide. Puis je vous garantis, c'est pas que chez les gens riches. Rappelle-toi, te rappelles, Michou, quand on allait chez ma mère, c'était comment? Voilà, c'était pas une femme riche. Mais ayez du goût, du savoir vivre dans un château. Je vous en supplie. C'est exaspérant de trouver ce que je trouve très souvent. Toujours, je rentre dans le château, je vois les rideaux. Mais comment vous aviez arrangé ces rideaux? Mais n'importe comment. Bon, que les femmes ne se coiffent plus parce que c'est la mode. Oh, ok, d'accord, encore à la limite, je veux bien. Mais les rideaux, il y a une certaine façon quand même de les tirer. Ne laissez pas ces choses comme ça, des n'importe quoi sur la cheminée, des n'importe quoi. Vous vivez comme dans un HLM. Mais arrêtez, élevez-vous, construisez, traversez le voyage de la vie avec des choses nobles, avec des pensées nobles. Que votre vie soit enrichie à tous égards. À tous égards. Par l'or de la parole de Dieu, par l'argent des prophètes et par les pierres précieuses des frères et sœurs. Nous devons nous motiver les uns les autres, nous exciter à la charité, à l'amour, mais à l'amour de quoi? À l'amour du travail bien fait, à l'amour de l'ordre, à l'amour de ceci, à l'amour de cela, ce qui fait que notre vie peut être agréable. C'est choquant de poser ses yeux sur des choses laides, alors que c'est si agréable de les poser sur des choses jolies. Et puis les choses jolies ne sont pas forcément chères. On était chez Marc l'autre jour avec Stéphane, et on est rentré dans ce corridor magnifique, et dans cette entrée magnifique, et puis je lui ai montré les deux lampes oranges. Elles viennent de chez Ikea ou un machin dans le goût là. C'est pas cher, mais c'est choisi avec soin, c'est joli. Ne vous permettez plus de vous entourer par des machins moches ou par des trucs qui traînent. Et les enfants aussi, d'accord? Savoir vivre. Pas seulement le bien et le mal, mais le savoir vivre. Le savoir vivre résulte de ces trois sources de valeur. Par la parole de Dieu, par la parole du prophète qui est donnée dans notre temps, et par les pierres précieuses qui brillent dans les frères et sœurs. Mais si elles ne brillent pas en vous, si vous attendez que ça brille chez les autres, ben vous êtes des perdants. Il faut que vous brilliez vous, si vous voulez être des vainqueurs. C'est vous qui devez inspirer les autres. Dites dans votre cœur, moi je veux être inspirant pour les autres. Pas en parole seulement, comme je suis en train de faire ce matin, ou de temps en temps, je dis, mais c'est pas possible, encore ce sopalin qui traîne dans ce... Encore des chaussettes sur ce truc dans l'entrée, mais c'est pas possible. Ça, c'est en parole, mais faites-le par l'exemple. Montrez une autre qualité de vie, un autre savoir-vivre. Mais dites-le vous à vous-même. Et dites pas, moi j'ai été élevé dans HLM, il n'y a aucune raison que ça change. Ben, s'il n'y a aucune raison que ça change, retournez-y dans votre HLM, mais venez pas nous l'imposer. Voilà. Changez de savoir-vivre. Ayez conscience qu'un jour, vous allez habiter dans la Nouvelle Jérusalem, et c'est ce que je vous souhaite, mais ce n'est pas gagné d'avance. Comment vous vivrez dans la Nouvelle Jérusalem? Comment vous vivrez là-dedans? Mais l'appartement de Marc, la Soldanelle, ça paraîtra d'un terne à côté, et pourtant c'est superbe. Mais ça paraîtra terne à côté. Habituez-vous à ce savoir-vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes déjà les prémices de cette Nouvelle Jérusalem. Profitez-en. Réjouissez-vous de ça. Illuminez votre entourage par ça. Non seulement votre famille, mais les frères et sœurs, mais aussi les gens du monde qui viennent vous voir, qu'ils voient la différence, qu'ils voient la qualité, qu'ils voient l'excellence. Jésus n'aimait que l'excellence. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi d'avoir été un peu dur avec vous ce matin, mais je pense que c'était nécessaire de le dire hors salon, hors couloir, mais de le dire dans une prédication. Parce que ça, c'est important. Le bien et le mal, c'est bien. Vous avez compris. Maintenant, le savoir-vivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus. Et puis, pour vous qui vivez encore dans HLM, ben, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Faites de votre vie de HLM, dans votre HLM, dans votre appartement, quelque chose de tout à fait magnifique. Je me rappelle, on avait été une fois avec Michou chez Salomé. Vous vous rappelez de Salomé? Bon, ben, c'est un immeuble, quoi. En plein Paris, pas très extraordinaire. Mais vous rentriez là-dedans, c'était superbe. Bon, et puis ensuite, vendez tout et suivez-nous. Pour vous qui vivez avec de l'excellence dans HLM, n'y restez pas. Vendez tout et suivez-nous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci.